Témoignages, échanges, discussions au réseau Cogeco. Voici Dan Bigra.
Alors, salut tout le monde, tous les auditeurs, évidemment, de Montréal, mais aussi à Québec. Je veux saluer les gens en Outaouais, en Estrie, en Mauricie. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'émission est basée sur vos appels. J'ai très envie que vous m'appeliez, puis que vous me donniez votre avis, puis qu'on en discute. Le numéro pour nous rejoindre, si vous êtes dans la grande région de Montréal, c'est le 514-790-9850. Et si vous êtes à l'extérieur de Montréal, ben c'est le même numéro, mais avec un 1-800-1866 au début. Donc, le même numéro, 790-9850. La question, c'est que là, Québec impose le port du masque dans les transports en commun, mais est-ce qu'on devrait l'imposer aussi un peu partout, dans les endroits fermés, les espaces publics, où est-ce que c'est pas possible de respecter les 2 mètres? Oh, il y a une liste d'endroits assez impressionnante. Pour nous en parler, on a le docteur Amir Kadir avec nous, qui est infectiologue et spécialiste des maladies infectieuses. Infectieuse, à l'hôpital Pierre-Legardeur. Salut, Amir.
Bonjour, Dan. Content de te retrouver en onde.
Ben oui, ça fait longtemps. Alors, oui. Docteur Kadir et moi, on se connaît juste assez pour se tutoyer, et puis c'est un masque. Je voulais ton avis là-dessus, parce que Maître était sorti avec une groupe de médecins devant le CHUM, puis tu exigeais vraiment plus de surveillance, plus de masques obligatoires. On sait que c'est fait à beaucoup d'autres endroits au monde. Mais est-ce que je rêve ou le Québec n'est pas un petit peu en retard là-dessus?
Malheureusement, oui, et on a des difficultés à comprendre pourquoi. Je peux comprendre les pressions qui s'exercent sur le gouvernement ou sur la mairie de Montréal par certains secteurs qui sont peut-être récalcitrants devant tout ça, mais il suffit de regarder l'expérience des autres pays, puis parfois on n'a pas assez d'humilité peut-être pour le faire. L'Asie a beaucoup mieux fait que nous. D'autres pays ont cumulé une expérience considérable là-dessus. Il y a encore une étude italienne qui vient d'être publiée. Les gens, en fait, cherchaient autre chose, cherchaient voir l'effet des mesures de confinement total sur la courbe épidémique. Puis alors qu'ils cherchaient cet effet-là, ils sont aperçus que c'est l'introduction des masques qui a changé la donne, même en Italie. Alors, quand on voit l'expérience des autres pays, comment, par exemple, aux États-Unis, sur les États qui ont imposé le masque de différentes manières, il y a une baisse de 6% de l'incidence, alors qu'il y a une augmentation de 25% dans les États qui n'ont pas introduit des mesures obligatoires, ben, on se demande mais pourquoi le gouvernement du Québec ne suit pas les évidences, ne suit pas l'expérience des autres pays, et c'est un peu désolant. Je dois dire que cette annonce d'aujourd'hui vient quand même assez tard, c'est bien, puis on ne peut pas nier que c'était nécessaire, puis il faut commencer quelque part, mais ce n'est pas assez. Est-ce qu'il faut que ça soit partout dans les endroits fermés, y compris dans les bars et les...
Les bars, on a des témoignages.
C'est un autre débat.
Mais on a des témoignages. Les bars, il y a un propriétaire de bar à Saint-Jérôme qui est absolument désespéré parce que il y avait 200 personnes, ça dansait, il y avait aucun contrôle, puis il y avait tellement pas de contrôle que les policiers sont arrivés. C'est impossible de donner l'étiquette à tout le monde.
Oui, et, puis il doit être inquiet pour ses employés.
Lui est inquiet pour sa business. Déjà, tout le monde est dans le trou en ce moment. Alors, je le comprends très bien, mais il dit que c'est impossible à faire respecter. Ben donc, si c'est impossible à faire respecter, il faut faire fermer. C'est malheureux. Parce que les gens confondent déconfinement avec le fait que c'est un petit peu derrière nous, on peut y aller lousse un peu. Et puis, ça ne l'est pas, on essaye d'enrayer. Et il y a une épidémiologiste qui a affirmé que avec 80% de la population qui portait le masque, on aurait peut-être assez pour juguler l'épidémie. C'est Nima Machouf, je pense que tu la connais un petit peu.
Oui, oui. Ben, en fait, on se base sur les chiffres, les données meilleurs experts en Asie qui ont un peu plus d'expérience que nous. Puis je répète, Dan, c'est qu'en Occident, on manque un peu d'humilité. Il faut reconnaître, ils ont plus d'expérience, plus de savoir-faire là-dessus, parce qu'ils en ont bavé depuis 20 ans, qui ont eu plusieurs épidémies, je pense à la Corée, qui les a tous eus, hein, le SRAS, celui qu'on a eu à Toronto, mais aussi le MERS, celui qu'ils ont eu en Arabie Saoudite, plus l'influenza, donc ils ont l'expérience. Puis
ils mettent les masques, eux autres.
Oui, puis en Corée, c'était pas comme à Hong Kong ou en Chine, c'était pas le coutumier. Les deux premières semaines, il y a eu un peu de cafouillage, il y a eu un rush, un stampede, un peu comme les papiers de toilette qu'on a connus ici, puis après, ça s'est calmé, puis tout le monde avait ses masques. Et donc, je vois pas pourquoi on prend autant de retard à faire les choses qu'il y a à faire.
Je crois que c'est l'anxiété. Puis je crois que le gouvernement, quand il annonce des choses, a peur de perdre des votes. On le voit aux États-Unis, on a un président qui s'en fout royalement, lui s'occupe juste de sa réélection. Et les États où ça a été rendu obligatoire, c'est les gouverneurs des États qui l'ont mis, mais ils n'ont pas compté sur le président. Ça doit fâcher les gens quand tu annonces quelque chose comme ça, mais tu sauves des vies, il faut le faire, là.
Dan, je dis à M. Legault, je dis à Mme Plante, réfléchissons un peu. Regardez justement ce qui s'est passé aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne. Si on fait des choses à courte vue parce qu'on pense que ça va nous attirer, disons, une désaffection électorale, ben, avec le temps, ça risque d'être pire. Actuellement, tout le monde s'entend pour dire que malgré tout ce que on a, enfin, toute la capacité de Trump de rebondir à peu près sur tous les sujets, là-dessus, il est devenu vulnérable.
Oui.
Il observe une disons des difficultés. Puis en Angleterre, c'est encore pire avec Boris Johnson. Donc, de grâce, faites ce qu'il y a de mieux. Puis dans 6 mois, tout le monde va être reconnaissant. Vous allez en sortir gagnant.
L'Union européenne rouvre ses frontières à 15 pays. Je ne sais pas dans quelles conditions, dont le Canada, nous autres même. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, c'est sûr que
c'est un peu vite, peut-être.
Si on accompagne ces mesures c'est-à-dire ces assouplissements dans les restrictions, moi, je ne suis pas tout à fait contre. Il faut qu'on trouve un moyen de vivre avec le corona, puis on ne peut pas s'empêcher de vivre. Sauf qu'il faut ajouter à ce moment-là d'autres mesures qui viennent renforcer nos capacités de défense. Masque, c'en est une, mais aussi le fait de mieux tester. Mobiliser suffisamment de monde, si on n'a pas assez de bénévoles, ben, employer des gens pour que dans les aéroports, pour que dans les endroits où il y a quelques cas qui se ramassent, rapidement, il y a une équipe qui intervienne, qui teste massivement l'entourage pour qu'on ne soit pas obligé de restreindre les activités de l'ensemble de la société, qu'on ne fasse que confiner ou isoler les personnes qui ont été atteintes et leurs contacts. C'est ce que l'Allemagne a pratiqué avec succès, c'est ce que la Corée a repratiqué lorsqu'il y a eu une résurgence de quelques cas il y a quelques semaines où ils ont rapidement encore jugulé la deuxième vague.
Parce que si on compte sur un vaccin, je pense qu'on attend après un miracle, le vaccin qui a le record d'avoir été trouvé plus vite, c'est celui de la rougeole, puis c'est 4 ans. On peut pas attendre 4 ans avant de bouger, c'est certain. On peut pas vivre 4 ans confinés. Donc je comprends mais il faut que ça soit fait avec méthode. De ce que je comprends, étant chanteur et non pas épidémiologiste, de ce que je comprends, c'est que nous autres, on a un instinct de survie qui est de faire survivre notre personne et nos enfants. Je peux comprendre ça. Mais le virus, dans son instinct de survie, lui, c'est de se reproduire tout le temps. Alors, si on fabrique des murs alentour de lui, avec des masques puis avec des gens qui l'ont déjà eu, donc, si le virus a pas muté, ben, ils savent quels anticorps envoyer. Mais si on encercle le virus, il peut plus se reproduire, puis à ce moment-là, ben, il se met à régresser, je rêve.
Voilà. Ben, c'est-à-dire que les dynamiques des épidémies font que n'importe quelle épidémie va finir par se calmer. On connaît des phénomènes épidémiques depuis 2000 ans, en fait, si on recoupe l'ensemble de l'expérience humaine. Et donc, cette épidémie, comme d'autres, va finir par s'éteindre. Sauf que, pour le moment, on paye un lourd tribut, puis on a fait des dommages considérables à nos sociétés, à nos économies, à nos vies. Et puis, il y a des moyens de s'en sortir plus rapidement, puis on tarde à les implanter. Et le vaccin et l'immunité collective font partie des espoirs qu'on alimente, puis qu'on a raison d'alimenter. Je pense que, comme tu dis, il ne faut pas mettre trop d'espoir dans les vaccins. Tant mieux si on fait de la bonne recherche, puis on le finance comme il faut, puis qu'il y a peut-être quelques espoirs d'en avoir, mais le jour où on en aura trouvé 2 ou 3, possiblement, la production puis l'approvisionnement est un autre problème.
Pour la planète en entier, on parle de milliards de personnes.
Oui.
Là.
Ben oui. L'autre aspect que tu as dit, c'est la question de l'immunité collective. Or, ça aussi, l'immunité collective, c'est-à-dire suffisamment de gens qui attrapaient la maladie pour briser la chaîne de transmission, on en est quand même loin. Parce que même, par exemple, dans les sociétés les plus touchées, ça ne dépasse pas 7 à 8 de la population qui ont contracté la maladie. Donc, on est loin encore du compte, c'est-à-dire de 60 à 70 Donc, en attendant, pour briser la chaîne de transmission, on a besoin d'autres mesures. Isoler les malades, isoler les contacts, porter les masques, garder ses distances. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures-là. Puis, c'est là que le bât blesse avec le gouvernement québécois. La tergiversation nous nuit. Puis on va se ramasser avec plus de problèmes. Vaut mieux prendre le taureau par les cornes tout de suite pour se donner une marge de liberté.
Est-ce que tu peux te déplacer d'un pied ou deux? Ton téléphone griche.
Désolé.
Pas de problème.
Voilà.
Je pense qu'un gouvernement se doit de dire l'exacte vérité. Plus c'est grave, moins ça leur laisse de marge de manœuvre, je trouve, pour ventiler un petit peu la vérité. Comme par exemple, au début, Dr Arruda et notre premier ministre Legault disaient, gars, c'est pas nécessaire le masque, en plus on sait pas comment le mettre, etc. On a tous compris que c'est parce qu'il en manquait dans les hôpitaux, puis ils essayaient de les garder pour les hôpitaux. Mais tu crois pas que s'ils avaient dit, dès le départ, écoutez, on vous demande de pas mettre le masque, c'est très bon le masque, mais on en manque pour les hôpitaux, ça aurait aidé les gens à être un peu moins sceptiques maintenant?
Ben oui, il y aurait eu moins de confusion dans le message, puis aujourd'hui, on n'aurait pas autant de divergences dans les appréciations, parce que c'est un peu ça. Puis c'est exactement sur la question des masques également aujourd'hui. C'est-à-dire de dire qu'on va le faire plus tard, ben les gens vont dire, si c'était si bon, pourquoi vous ne l'avez pas imposé plus tôt, quand ça va être imposé plus tard? On aura toujours ces arguments-là. Et sur la question
c'est
des masques...
C'est pire que ça, ces médias sociaux, c'est parce que l'extrait du docteur Arruda, il y a plein de personnes qui le font circuler comme si c'était maintenant, comme s'ils venaient de le dire.
Ouais,
alors là, t'imagines la confusion sur tout le monde. Là.
C'est terrible, oui. Et par ailleurs, il me semble que faire confiance à sa population, l'embarquer, c'est-à-dire le traiter, non pas de manière condescendante comme mineur, mais comme entité agissante, au même titre que l'ensemble des décideurs, mobiliser les gens, mettre leur intelligence de notre côté, c'est-à-dire compter sur leur intelligence pour embarquer dans le combat commun, aurait fait en sorte qu'aujourd'hui, il me semble, on aurait eu moins de problèmes. Maintenant, c'est facile à dire tout ça par après, mais une fois qu'on a vécu cette situation des 3 derniers mois, il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître qu'on a commis des erreurs, d'autres ont fait mieux que nous, et il n'y a rien de mal à suivre leurs recommandations. Et là-dessus, je répète, on manque d'humilité pour reconnaître que les pays asiatiques ont mieux fait et nos autorités de santé publique, y compris l'INSPQ, y compris l'INES, y compris les autorités de santé publique québécoises, devraient avoir l'humilité d'accepter les recommandations qui nous sont faites par les responsables des maladies infectieuses et de santé publique en Asie.
Oui. Tout le monde fait des erreurs. Je crois que c'est pardonnable. Mais à un moment donné, il faut bouger en avant puis bouger vite. Il y a des morts au bout, il y a des tragédies. Puis là, ça sera pas tout pardonnable quand on fera le...
Quand on le sait, effectivement.
Ouais, puis quand on fera le bilan de tout ça après, puis qu'on jugera, on se rappellera qu'est-ce qui nous a été dit. Merci beaucoup, Amir.
Merci,
prends soin
Dan.
De toi. Bonne chance.
Au revoir.
Bye. C'était le docteur Amir Kadir, infectiologue et spécialiste des maladies infectieuses, donc à l'hôpital Pierre-Legardeur. On revient après la pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez...
C'est pas juste le métro ou l'autobus ou dans les métro-autobus où on a besoin de masques. Dans tous les espaces clos, on a besoin de masques. Parce que les études nous ont montré qu'on a 18 fois plus de chances de s'infecter quand le milieu est fermé que quand on se promène à l'extérieur.
Okay. C'était le docteur Nima Machouf quand elle avait pris part à la conférence de presse le 11 juin qui avait été donnée devant le CHUM pour essayer de sensibiliser la population à la protection, donc au port des masques en premier. Pour en parler, on a avec nous le docteur François Marquis qui est chef aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour docteur Marquis.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Ben, nous autres, comme tous les Québécois, mais comme la planète, tant qu'on n'est pas malade, on va bien là, pour l'instant.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez du port du masque dans les transports en commun? Puis est-ce que vous le feriez porter à tous les autres endroits? Il me semble que le transport en commun, c'est un exemple d'endroit où on devrait le mettre, mais c'est pas le seul.
Ben effectivement, c'est que c'est, je dirais, j'appelle ça moi les endroits forts, c'est les endroits où, comme les aéroports, il y a énormément de gens qui se croisent et des gens de tous les horizons. Je veux dire, on prend le transport en commun, il est très peu probable qu'on soit toujours assis à côté de la même personne. C'est pas comme du covoiturage.
Il y a beaucoup de gens. Point.
Exactement. Il y a beaucoup de gens, des gens qui changent, on en croise énormément. Et veut pas, dans des wagons ou dans des stations de métro, je sais qu'ils travaillent fort sur l'aération, mais il y a toujours cet élément-là de circulation d'air. Et de toute façon, quand le métro arrive, pour prendre l'exemple du métro, c'est certain qu'il fait un gros ouf d'air, puis que s'il y a des gouttelettes, ben les gouttelettes vont se transporter d'avant en arrière assez vite, merci. Et je pense que définitivement le transport en commun, toutes les formes de transport en commun, j'inclus là-dedans aussi l'avion, devrait avoir, les gens devraient porter un masque. Ça, c'est le minimum.
Surtout en avion, parce qu'on respire le même air dans l'avion. Ils prennent pas d'air extérieur, l'air.
Non, mais ça c'est pas si vrai que ça. En fait, la qualité de l'air dans un avion est étonnamment bonne, en fait, et probablement meilleure que dans la plupart des édifices de bureaux.
Ils ont des filtres.
Probablement. Pardon?
Ils ont des filtres.
Ils ont d'excellents filtres et sont assez...
Ils peuvent, excusez-moi, c'est parce que je veux pas vous couper la parole, mais est-ce que les filtres peuvent bloquer la COVID?
Ben en fait, c'est comme nos masques N95 sont capables de bloquer le COVID. Eux autres ont des masques, ils ont pas des masques, mais ils ont des filtres HEPA dans les avions, que si je me trompe pas, là, on va pas me citer là-dessus, mais je pense que c'est des N100. C'est relativement performant parce que le problème des avions, c'était pas tant de bloquer la COVID que de bloquer l'influenza. Et il y a des études d'influenza qui ont été faites pour dire que habituellement, tu attrapes ton influenza ou ta COVID dans l'aéroport en t'attendant en ligne pour aller dans l'avion. Pas tant que ça dans l'avion comme tel. Mais pour en revenir à nos transports, parce que là, les avions, on s'entend qu'ils ne sont pas super populaires, les autobus, les métros, beaucoup plus. Moi, j'ai eu des jeunes collègues qui ont attrapé ça avec du covoiturage, parce qu'ils covoituraient ensemble pour aller à différentes réunions. C'est que ça, il faut y penser, le covoiturage. C'est certain que si c'est un couple là, qui vit déjà dans la même maison, c'est pas la même chose, mais le covoiturage...
Non, mais il faut faire attention aussi. Des fois, on n'a pas... Je vois ça beaucoup passer. On a tendance à taquiner, puis même à insulter un peu. Si tu vois une photo d'un monsieur, admettons, qui est tout seul dans son auto avec son masque, mais on sait pas, peut-être qu'il va chercher ses enfants, puis qu'il va les avoir dans une minute et demie, puis qu'il veut pas que ses gouttelettes soient dans l'air avant d'aller chercher ses enfants. On sait pas. Il y a plein d'exemples comme ça.
Oui, puis honnêtement, là, quand on a l'endroit le plus sécuritaire pour avoir son masque, hein, c'est dans son visage, et c'est quand on le met, qu'on l'enlève, qu'on se le met dans le cou, qu'on le met dans nos poches, c'est là que l'intérieur et l'extérieur peuvent venir en contact et qu'on peut finalement perdre l'efficacité du masque. Donc, de l'avoir à peu près en tout temps, même tout seul dans son automobile, c'est pas nécessairement fou. Puis si on l'a dans le visage, bon, on l'oubliera pas. Nous, à l'hôpital, des fois, on l'a toute la journée, puis on est dans notre bureau en train de remplir des papiers, puis on l'a gardé
par réflexe
parce qu'on l'a oublié là.
Mais c'est une bonne chose. Dites-moi, Dr Marquis, je veux juste prendre des appels, mais
ben oui.
J'aimerais ça qu'il n'y ait pas juste un animateur qui le réponde, mais qu'il y ait un spécialiste. Ça, c'est vous. Je vais vous garder avec moi un bon petit bout d'air, si vous êtes d'accord.
Ben, y a pas de problème, je suis là.
Merci, ça fait plaisir. On a un premier appel. Michel.
Bonjour.
Salut, Michel.
Ça va bien?
Oui, ça va bien. Alors, est-ce que tu es pour l'imposition du masque dans les transports en commun?
Complètement partout. Moi, j'ai un commerce au détail. J'ai tout mis un lavabo à l'entrée, tout sans contact. Les gens risquent de s'enfarger dans la pancarte qui marque « Lavez vos mains », puis ils disent qu'ils l'ont pas vu. On doit le dire. Ensuite de ça, le masque, quand tu le demandes s'ils peuvent le porter, tu les insultes. T'insultes le client et même tes employés, tu peux pas les exiger parce que c'est pas une loi. Si la loi est là, tu es capable de dire autant aux clients qu'à tes employés, regarde, c'est la loi, faut le porter.
Donc, tu serais plutôt d'accord avec non seulement le faire dans les métros et autobus, mais de le faire dans les magasins ou dans tous les endroits avec un bon sens commun. On s'aperçoit qu'on se ramasse beaucoup trop proche l'un de l'autre, puis il n'y a aucun moyen de ne pas respirer l'air de l'autre.
C'est ça. Moi, j'ai même des plastiglas devant nos bureaux et le client, il se tasse à côté du plastiglas pour te parler.
Okay.
Mais ça, je pense qu'on a des points super importants ici. Effectivement, on oublie les gens, les commerces au détail, mais eux autres, ils sont à un endroit fixe et les gens, hein, c'est peut-être un ou deux à la fois, mais c'est feu roulant toute la journée. Ces gens-là ont le droit aussi à leur sécurité. Et c'est là qu'il faut dépasser la simple histoire de loi puis de penser à de la conscience sociale. À quelque part, personne ne devrait se sentir insulté de se faire demander de porter un masque. C'est juste que là, il faut que l'effort soit commun, que l'effort soit sociétal.
Parce que c'est pour la protection des autres. À un moment donné,
en bout de ligne, c'est pour ta protection aussi, parce que cette personne-là, par 5 personnes interposées, va finir par te rejoindre. C'est un petit monde, le Québec, là.
Oui. Et puis à se le passer à un autre, à un moment donné, tu vas le passer à quelqu'un de plus âgé qui, lui, va mourir. Puis plus tard, tu vas te demander si c'était pas toi qui y avais passé. Alors, ben oui. quand les gens font les courageux en disant « Moi, ça me fait pas peur, la COVID », ben pense un petit peu aux autres. Merci beaucoup, Michel. Excellente mesure dans ton magasin. Merci beaucoup. Sylvain. Salut, Sylvain.
Bonjour, Dan. Bonjour, Dr. Marquis. Ça va bien?
Ben oui. Bonjour.
Pleine forme, Zo.
Parlez-moi de ça.
Alors, est-ce que tu es pour ou contre l'imposition du masque dans les transports en commun?
Ah, je vais peut-être être la note discordante
ce matin
dans les médias. Ben, écoutez, moi, je suis sceptique, là, le port du masque. Je le perçois un peu comme face à volte-face, Dr. Arruda. Moi, j'étais parfaitement d'accord avec ce qu'il disait. C'est que le masque, c'est pas bien porté, bien, il peut s'avérer inutile, puis je vais peut-être même oser dire, quelquefois néfaste, surtout dans les transports en commun. Je vais vous expliquer. Porter un masque dans les transports en commun, c'est dire aux gens que tout le monde est un porteur potentiel asymptomatique. Quand on a ce discours-là dans une société, c'est qu'on voit tout le monde comme des malades. Au lieu d'y aller de façon proactive, c'est-à-dire lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez le rhume, puis même, il faut avoir une vision à un plus long terme, là, ça veut dire, quand là, ça va se représenter, ben, il faut que le masque soit un signe comme quoi on est malade et éloignez-vous de moi.
Le problème, Sylvain, c'est qu'on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui n'a pas le COVID puis quelqu'un qui est porteur asymptomatique. La personne elle-même ne fait pas la différence, puis nous non plus. Donc, ces personnes-là vont se promener dans le métro et donner la COVID à tout le monde. C'est parce que le problème qu'on a, Sylvain, avec ça, c'est que souvent, on en fait une espèce de discours politique. Alors, on est pour, on est contre. Je comprends qu'il y a eu des erreurs sur le message. On en a parlé tantôt. Monsieur Legault et le docteur Arruda qui disaient que c'était pas nécessaire les masques au début, puis bon, tout ce que tu as dit exactement, mais là, on s'est vite aperçu, puis ça a été confirmé par pas mal tous les médecins, que la vraie raison, c'est parce qu'il en manquait dans les hôpitaux, puis ça urgeait, puis ça tombait comme des mouches. Alors là, on comprend qu'ils ont fait une grosse erreur de communication, ils auraient dû être plus clairs avec le public, le peuple québécois est pas niaiseux, on aurait compris, on aurait fait attention, puis on serait mieux préparé. Mais maintenant, c'est démontré, là, c'est le port du masque est obligatoire dans plus de 119 pays, puis ils font tous mieux que nous. Mais ça, c'est mon avis de Dan. Docteur Marquis, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, il y a plusieurs choses importantes là-dedans. La première, c'est qu'effectivement, les personnes peuvent être asymptomatiques et donc le spreader, le répandre sans le savoir. Premièrement, quelqu'un qui serait symptomatique, qui le sait, qui tousse, qui a de la fièvre, ne devrait pas prendre le transport en commun, même avec un masque. Hein. C'est que ça, oui. C'est une chose importante. Et l'autre élément qui est important là-dedans, c'est que c'est justement, c'est un élément de conscience sociale. Le but, c'est de protéger tout le monde. On ne veut pas stigmatiser, on ne veut pas dire tout le monde est malade. On veut dire, au contraire, de façon positive, que tout le monde fait sa part pour qu'on contrôle la pandémie et que ça ne soit pas une grosse deuxième vague qui nous arrive parce que tout le monde a fait sa part. Et ça, c'est ça l'élément qui est important. Quand je porte un masque, c'est un message positif. C'est moi, comme individu, je fais ma part comme membre de la société.
C'est pas un message de jugement, c'est un message d'entraide.
Exactement.
Je comprends très bien. Merci beaucoup, Sylvain. On en veut des avis discordants, puis on discute, ça vaut la peine. Docteur Marquis, si vous voulez bien, je vais faire une pause, mais j'aimerais ça vous garder, puis vous esclavagiser encore un petit peu, si c'est possible.
Il n'y a pas de problème.
Ça me fait plaisir. Et j'aimerais d'autres appels. J'aime ça quand vous m'appelez. J'ai été confiné, je me sens emmerdé, je veux parler. Alors, je veux vous écouter. C'est au 514-790-9850, ou si vous êtes à l'extérieur de Montréal, c'est au 1-866-790-9850. La question, est-ce que vous êtes pour ou contre le port du masque dans les transports en commun? Et on va avoir avec nous le docteur Marquis après la pause.
Pour connaître l'impact dans votre vie, au réseau Cogeco, vous écoutez Dan Bigra.
Alors, on est toujours avec le docteur François Marquis, qui est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On va prendre des appels, toujours sur la même question, qui est très, très, très importante, parce que là, on parle de vie et de mort là, aujourd'hui, là, sur l'imposition du masque dans les transports en commun, mais moi, je rajouterais un peu partout. Partout où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on peut pas respecter une distance de 2 mètres. Ceci dit, on n'est pas les premiers. Le port du masque obligatoire dans les commerces et édifices municipaux, ben à Côte-Saint-Luc, dans l'ouest de Montréal, ça l'est déjà. Windsor, Kingston, ils imposent le masque dans les commerces. Toronto l'annonce aujourd'hui. Il était déjà obligatoire dans les transports en commun. Ils vont élargir aujourd'hui. Et il y a une dizaine d'États américains qui l'imposent, comme New York, la Californie, le Nevada, parce qu'ils ont eu beaucoup trop de dégâts, beaucoup trop de morts. Et puis le président semble pas vouloir être intéressé par la question. J'ai entendu dans les arguments contre, moi, ça me provoque de l'anxiété, j'ai de la misère à respirer. Là, c'est juste moi qui voudrais répondre. Je suis asthmatique. Évidemment, moi, le sport m'a beaucoup aidé. Je fais plus de grosses crises maintenant. Je peux en faire à l'air très froid l'hiver, mais l'été, je traîne aucune pompe avec moi. Mais je sais, mon corps se souvient exactement c'est quoi manquer d'air. Puis le moindrement que ça passe pas à mon goût, j'aime pas ça. Mais je me suis habitué au masque. Ça m'a pris 2-3 fois. J'ai pris une marche plus grande. Puis après ça, je me suis habitué. Puis c'est évident que si j'ai un sprint à faire, ben je vais essayer de le faire dans un endroit où il y a moins de monde, puis remettre mon masque après. Alors, pour moi, j'ai l'impression que tout ça est faisable. On voit qu'aux États-Unis, ils l'ont fait beaucoup trop tard. Ben, regardez maintenant, ils ont 2 600 000 cas au-dessus de ça et au-dessus de 129 000 morts. Et ça continue. Donc, la leçon qu'on en retient, c'est plus on retarde, plus on met la société en danger. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr. Marquis?
Bien, effectivement, le masque est une façon qui est sécuritaire, qui est peu dispendieuse. C'est comme l'espèce d'élément de protection parfait, là. C'est pas comme si on avait besoin de se promener avec des soutes d'astronautes, là. Et je pense que la stratégie que vous avez décrite de s'habituer au masque dans, pas nécessairement en public, de l'essayer à la maison, tranquille, c'est certain qu'on respire pas comme quand on n'a pas de masque. C'est ça le concept. Mais on respire pas moins bien. Il y a une obstruction au flot d'air, mais l'air passe très bien. Il n'y a personne qui va... C'est pas comme si on avait atteint dans un sac en plastique. Et à partir de là, la bonne nouvelle, c'est que si l'air était froid, en fait, le masque diminue les chances de faire de la crise d'asthme parce qu'il réchauffe l'air.
J'aurais pas pensé,
était
mais
réchauffé.
Oui.
Mais pendant l'été, effectivement, on sent quelque chose, mais c'est pas comme...
C'est pas agréable. Il y a personne qui aime ça manquer d'air.
C'est pas agréable, mais c'est pas dangereux. Il y a personne qui a une condition respiratoire. Moi, là, quand j'ai mes patients là, pulmonaires là, sous oxygène, là, eux, quand ils arrivent à l'urgence, là, il y a un an ou il y a 2 ans, ils n'avaient pas peur de la COVID, ils avaient peur de l'influenza. Puis moi, mes patients sous oxygène, ils portent des masques à l'hôpital. C'est juste pour vous dire qu'ils ont plus peur de ce qu'ils vont attraper à l'hôpital que leur inconfort de masque. Donc, c'est...
J'ai fait un petit tour d'hôpital dernièrement. J'ai eu un petit accident de VTT, puis oui. j'ai passé presque une semaine. Je peux vous dire, je portais mon masque. Je me sacrais de la température de la zone où j'étais, ces masques tout le temps.
Exactement.
Pour moi et pour les autres, je suis peut-être rentré avec, puis j'étais asymptomatique, puis je ne savais pas. Puis dans cet hôpital-là, il y a peut-être des personnes âgées qui peuvent l'attraper. Fait que moi, je portais mon masque tout le temps.
Exactement. Puis je pense que ça, c'est un super bel exemple de conscience sociale, puis de faire sa part pour les autres. Puis honnêtement, là, porter un masque, on peut-tu s'entendre que c'est pas pas ça qui brime notre liberté. Au contraire, je trouve que...
Mais il y a déjà des lois sur on est obligé de s'habiller en public.
Oui, exactement.
Alors, peut-être qu'il y a des gens que ça achale. Ils aimeraient ça vivre tout nu, mais c'est pas, on n'est pas brimé dans nos droits parce que on met un chandail ou parce qu'on met un masque. Surtout dans ce cas-ci, c'est pour sauver des lois. C'est pour, pardon, sauver des vies. Excusez le lapsus. Docteur Marquis, j'aimerais prendre l'appel de José. Bonjour, José.
Allô.
Allô.
Ça va?
Oh, oui, nous autres, ça va très bien. Oui. Alors,
écoute,
qu'est-ce que tu penses?
Ben, je suis entièrement d'accord avec le port du masque dans les transports en commun. Il y a un point qui n'a pas été souvent discuté. Quand tu prends soit l'autobus ou le métro, que tu dois te tenir après une rampe, une sangle pour pas te garrocher si l'autobus arrête puis que tu n'es pas assis.
Ah oui, je comprends.
C'est pas nettoyé, ces affaires-là. Fait que si tu mets ta main à quelque part ici et là, puis que tu n'as pas de purelle, va-tu falloir porter des gants tant qu'à faire?
Ah, bonne question, Dr. Marquis.
Alors, oui, c'est une excellente question, puis je suis content que ça soit soulevé, parce que j'essayais de trouver une façon de glisser ça subtilement dans la conversation. Ce qui est important de savoir, c'est que même si on se mettait les deux mains dans des chaudières de virus, le virus ne peut pas passer à travers la peau.
Ah, il ne faut juste pas se mettre la main dans les yeux, par exemple.
Exactement.
Ou dans
la meilleure façon, pensez quand vous sortez à l'extérieur que vous venez de vous tremper les deux mains dans de la peinture ou de l'encre. Si vous aviez là, les mains toutes sales, pleines d'encre rouge ou bleue, là, vous ne seriez pas en train de vous jouer d'en face. Et quand on considère ça, vous seriez étonné comment on peut se dompter ou se conditionner à arrêter de se jouer dans le visage. Et ce que madame dit est absolument vrai. Ce qui veut dire que quand vous avez fini votre excursion de transport en commun, le premier lavabo ou le premier désinfectant à main que vous rencontrez, bien, vous y allez généreusement. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans l'hôpital. Parce que dans l'hôpital, il n'y a pas une surface, il n'y a pas un téléphone, il n'y a pas une souris, il n'y a pas un clavier qui doit être recouvert de COVID. OK? Nous, on pense comme ça en tout temps. Et regardez un médecin, regardez une infirmière, personne ne se joue dans le visage. C'est très faisable. Et on se lave les mains. Et on n'a pas... Moi, personnellement, je ne me traîne pas partout de la solution alcoolisée. Il y en a présentement partout autour de nous. Dès que j'ai une occasion, je vais me laver les mains. Mais j'ai intégré le fait que je me promenais avec les mains pleines d'encre puis pleines de peinture, puis c'est pour ça que j'arrêtais de me jouer d'en face.
Oui, c'est ça. Alors, José, pour répondre à ta question, c'est très, très, très clair. C'est pas juste de mettre tes mains sur du COVID. Ça, si tu l'as, c'est correct, tu seras pas malade. Fais juste, à partir du moment où tu as touché quelque chose de suspect, pas jamais mettre tes mains d'en face jusqu'à temps que tu te sois lavé. C'est tout. Ouais. C'est tout simple.
Vraiment juste ça. Les gants sont pas nécessaires justement pour ça. Parce que le masque a besoin d'arrêter des gouttelettes. Si j'ai de la COVID sur la peau, j'ai aucun danger de l'attraper. Okay. Puis si j'ai des gants, puis que j'ai le COVID, ces gants, puis que je me joue dans le visage,
c'est la même chose.
Quand même l'attraper.
Oui. OK, je comprends parfaitement. Merci beaucoup, José. Donald.
Salut, oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Moi, oui, ça serait oui pour les hôpitaux, surtout les hôpitaux en premier, après les métros et les autobus. Le reste, là, IGA, toutes les places d'achat du Marais, Walmart, Canadian Tire, ça serait un gros nom. Même si je passerais toutes mes économies à ticket, ça va être un gros nom. Je ne porterai jamais le masque d'un IGA où je fais ma commande. Écoutez, regardez la Chine. La Chine, ils portent des masques dès la naissance, ils portent des masques. Puis là, ils vont subir une deuxième vague. Alors, je me demande pourquoi qu'on nous oblige 4 mois après...
En fait, la Chine, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont déconfiné trop rapidement. Alors là, ils reconfinent, justement,
ouais,
parce qu'ils n'ont pas fait attention.
Oui, puis regardez, dans le journal de dimanche, on nous dit que tous ceux qui meurent d'une maladie pulmonaire, le cœur, le foie, le cerveau, le pancréas ou autre maladie, sont tous morts du COVID. Fait, quel intérêt on a à dire ça? Que toutes nos maladies qu'on meurt, là, c'est le COVID. Quel intérêt, c'est ça? Je trouve ça
je crois pas. Je crois pas que c'est ça. Moi, je pense une attaque cardiaque, un cancer, c'est un cancer. Mais je crois quand on parle de COVID, on parle de COVID. Si c'est mélangé, c'est peut-être plus dans le public ou des fois à la suite d'un article qui explique pas suffisamment bien. Ouais. Je pense qu'on sait très bien que le COVID, c'est le COVID. Ensuite, moi, je peux te dire, le supermarché dans mon coin où je suis, c'est un Provigo. Alors, eux autres, ils désinfectent tout le magasin toute la nuit, y compris les produits, tout ça. Mais après ça, c'est les masques. On n'a pas le choix. Puis dans mon coin, c'est assez bien respecté. Il faut suivre les lignes aussi pour rester en sens unique. J'y pense, moi, pendant que je monte le show du refuge. Là, on va le faire sans public. Mais il faut pas que personne se croise. On peut pas travailler dans une pièce, même si elle est très grande, juste s'il y a une entrée. On va se le passer, tout le monde va être malade. Alors, c'est surtout de penser aux autres là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Marquis?
Bien, première des choses, là, quand nous, on marque comme diagnostic au décès COVID, faut comprendre là qu'on n'invente pas ça. Là. Il y a des tests de dépistage, c'est un diagnostic médical comme les autres. Mmh. Et on m'a déjà posé la question, il y a combien de gens qu'on a inventé des diagnostics de COVID pour cacher d'autres choses? C'est zéro, là. Ça sert à rien pour nous autres. Si t'es mort du cancer, t'es mort du cancer. Si t'es mort de la COVID, t'es mort de la COVID. Final. Ok, c'est que ça, c'est du fake news. L'autre élément, c'est que la densité de monde qu'il y a dans un centre là, style marché d'alimentation. Moi, je porterais un masque là, quand je vais dans un lieu de ce type-là, que ce soit une SAQ, que ce soit un IGA, un Provigo, moi, j'ai un masque. Je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Et c'est une question de densité de personnes. Tant qu'il y a un certain nombre de personnes dans une pièce, même si c'est une grande pièce qui s'appelle un IGA, pour dire quelque chose, ça reste une grande pièce. Il y a plus de monde dedans. Et plus il y a de monde, plus on a de chance de rencontrer quelqu'un. C'est que c'est juste...
Absolument. Quand je rencontre quelqu'un dans une allée, je vire de bord, moi. non, mais je veux dire, on va suivre les sens uniques ou on ne va pas les suivre à un moment donné. Là.
Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et pourquoi on le fait encore là? C'est pas pour empêcher la deuxième vague. Le but, c'est que la deuxième vague soit la plus basse possible. Il va y avoir des éclosions. C'est pas parce qu'il y a une éclosion à quelque part qu'on se dit tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Non, parce que ça se peut que ça soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Parce que tout le monde a fait attention. Le port de la ceinture de sécurité n'a jamais empêché certaines personnes, malheureusement, de décéder dans des accidents d'auto. C'est juste que ceux qui se rappellent de l'époque où on ne portait pas notre ceinture, il y en avait en Moses qui se...
Moi, je m'en rappelais et je me rappelle qu'il y a eu des incitations à mettre les ceintures et tout le monde s'en sacrait royalement. Et là, il y a eu des amendes, tout le monde les a mis, puis il y a eu un paquet de vies de sauvées. Puis évidemment, on en avait des exemples, des gens qui disaient, oui, moi, je vais mourir brûlé dans mon auto si j'ai un accident, je ne pourrais pas me sauver. On peut toujours trouver des cas extrêmes, mais sur la balance, ben 95% des cas, ça sauvait les vies. Alors, je crois que c'est une très, très bonne analogie ici. Je veux faire attention avec tout le monde aussi, où vous prenez vos nouvelles. Je suis conscient que tout le monde est dans une période méfiante. Mais si, honnêtement, si votre propos, c'est que Cogeco, c'est des fake news, Radio-Canada, c'est des fake news, TVA, c'est des fake news, puis vous vous renseignez sur YouTube, ça se peut que je vous taquine un petit peu. Moi, j'aime mieux discuter avec des médecins et prendre l'avis des médecins tout le temps, des experts. On a le temps pour un dernier petit appel rapidement. Robert. Salut, Robert. Es-tu là? Robert est parti. Écoutez, on va aller à la pause. Merci beaucoup, Dr Marquis. Ça a vraiment aidé. Vous êtes un bon vulgarisateur. Ça explique très, très, très bien.
Bien, merci de m'avoir invité, puis bonne fin de journée.
Merci, puis bonne chance dans votre travail. On sait que vous êtes très occupé. C'était le docteur François Marquis, qui est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Nous autres, on va prendre une petite pause commerciale, et puis on va revenir avec notre Jean-Luc Mongrain national, tout de suite après la pause.
Témoignages, échanges, discussions. Jusqu'à midi, vous écoutez Dan Bigras.
Alors, j'en face de moi, le seul, l'unique, le grand Jean-Luc Mongrain.
Grand.
Hey, je t'ai parti, là.
Lève-toi pas.
Je suis pas plus grand que toi, je suis plus haut. Ça n'a rien à voir.
T'es plus haut, c'est vrai que t'es plus haut.
C'est juste ça. Qu'est-ce que t'as pour nous, Jean-Luc? Écoute, tu commences à midi.
Enfin, masque obligatoire dans le transport en commun à Montréal. Oui. Oui. Autobus, métro, etc., etc. Alors, tu sais que notre travail, c'est d'essayer d'avoir des gens pour nous parler de ça, des autorités, pour nous dire, puis, comment ça va marcher, comment ça va fonctionner. Ben, imagine-toi que la mairesse, chère princesse, et M. Schnob, également, qui ne l'est pas...
Il n'est pas schnob?
Il n'est pas schnob.
Okay.
Voilà donc que ces deux-là, non, ben là, ils sont frustrés parce qu'ils ne seront pas de la conférence de presse du premier ministre aujourd'hui. Ah. Alors donc, on ne sait pas, il va-tu l'annoncer, on n'a pas entendu parler, on n'est pas au courant de rien. Ces gens-là ont été élus pour répondre aux questions. Et comment ça va fonctionner? C'est pas le premier ministre qui va nous dire que le chauffeur d'autobus va interdire ou pas interdire l'accès. Comment ça va marcher? Est-ce que tu penses que le syndicat des chauffeurs d'autobus va réellement accepter de prendre la responsabilité de dire à un patient, à un client qui veut monter à bord de l'autobus, « Hey, tu montes pas, toi, tu t'en vas pas travailler, t'as pas ton masque. » Comment ça va marcher? On le sait pas. Est-ce que ça va être vrai aussi dans les métros ou présentement, je veux dire... Comment
c'est
ça marche?
Effectivement, c'est... très dur. On l'a vu, il y avait des bars qui ont essayé de l'appliquer, ils n'ont pas réussi. Alors, on comprend que les bars, à un moment donné, tout le monde prend un coup, mais c'est pas ça. C'est les policiers n'ont pas pu donner de ticket aux clients de ce bar-là parce qu'il y en avait trop. Ils étaient 200 collés, pas de masque.
Comment tu gères ça? Comment un gars arrive, ça, là, puis mettons qu'il prend un autobus un peu tard, puis qu'il est magané un petit peu.
Oui.
Penses-tu qu'il va s'assister avec le chauffeur d'autobus? Hey, moi, là, regarde, je rentre.
Non, il rentre. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, comme chauffeur? Tu vas te battre avec?
Ben non, c'est ben ça. Non. Alors, voilà. Comment ça va atterrir, toute cette affaire-là? Une politique correcte, je pense, au point de vue de la santé publique.
Mais comment on va l'appliquer?
Ouais. Comment on va l'appliquer? La mairesse ne veut pas parler parce que madame est frustrée, puis schnob et schnob. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est notre problème.
Ben, qu'ils fassent leur propre conférence de presse pour nous expliquer. Je pense qu'il y a d'autres choses à savoir.
Ben, c'est ça. On les a invités. Ah, oh, non, non, non. Il va pas. OK.
Ah, ils veulent pas venir à ton émission?
Non, non, parce qu'on n'est pas au courant de rien. Ils nous ont pas invités. On ne sait pas de quoi ils vont
parler. M. Schnob, on va vous chicaner. On est solidaires ici, nous autres.
Je pense qu'on est parti pour ça, là. Alors, oui. Ça, c'est une des affaires dont on va parler,
oui, je comprends.
Après ça, j'ai pensé à toi ce matin, mais
là, tu t'es réveillé et c'était juste un cauchemar.
Non, pas du tout. En lisant Broadway à New York. Mmh. Je ne savais pas ça, l'importance de cette industrie du spectacle.
Oui.
35 millions de dollars par jour en billets pour des spectacles sur l'unique Broadway.
Oui, Broadway.
Alors, tu t'imagines, ils rouvriront pas avant 2021. C'est épouvantable comme industrie.
À plus petite échelle, moi, je peux te le dire parce que c'est ma job. Là. Moi, j'ai, crasselé une fortune de spectacles le même coup. Parce que je réfléchissais tout ça, je me dis, voyons, comment ça se fait que ça se propage si vite? Comment ils attrapent ça? Ben, je dis, en faisant des rassemblements. Puis je dis, c'est quoi ta job, là, ce matin, faire c'est des vrai. Rassemblements? Oui. Bon, ben, cancel tes shows. Alors, je les ai reportés. On sait pas jusqu'où ils sont reportés, mais je peux te dire que, d'après moi, il y a des festivals qui vont s'ouvrir à un moment donné. Les festivals plus familiaux, tu sais, où les gens sont assis dans l'herbe.
Oui.
Ça va ouvrir plus vite. On peut étendre. Mais ceux qui sont pris entre quatre
comme
murs.
Concert sur la montagne, par exemple, s'il y en avait, là.
Voilà, exact. Ça, c'est un parfait exemple. Si, par exemple, ta salle a 300 places puis que tu arrivais tout juste à survivre, c'est pas en mettant 30 personnes que tu vas ça payer ton show, tes comptes, tes dépenses, ton staff puis tout le monde. Incroyable. Alors, moi, j'ai très peur que 90% de ces salles-là, pour lesquelles il y a des fois des générations de gens qui ont travaillé, puis moi j'ai joué là 20-30 fois, vont toutes mourir.
Ensuite de ça, on va parler d'autres choses. On va parler de ce monsieur qui s'est présenté dans un CLSC du Haut-Richelieu et qui est mort d'une crise cardiaque parce qu'il a été refusé. Hein? On lui a dit, on n'a pas ton dossier ici, mon homme. C'est sûr, c'est un gars de la construction qui vient d'ailleurs. Il y a un malaise pendant qu'il fait de la toiture. Il s'en va au CLSC. On dit, non, monsieur, il se part, il s'en va à Saint-Mathias avec son char, poigne le clos. Les gars tentent de le réanimer quand la police arrive, il est mort.
Il n'y a pas une politique, justement, d'urgence dans ça-là où ils sont obligés de prendre?
Les CLSC, c'est nous autres, en tout cas, ça nous a été présenté, puis tu t'en souviens, c'est la porte d'entrée du réseau. Mais non, c'est l'urgence. Ils n'ont pas ton dossier. Non, merci, monsieur. Le gars, il se passe, je ne fais pas. Ils disent, on n'a pas votre dossier. C'est d'un ridicule consommé. On travaille en silo dans la santé, alors qu'on est supposé, à mon point de vue, d'être en état d'urgence pour accueillir quiconque a besoin de service. Voyons donc. Alors, on va parler de ça.
Moi, j'ai l'impression qu'on peut changer toutes les politiques qu'on veut, mais tant qu'on a une grosse machine étouffante comme ça, la tête parle pas aux pieds. C'est clair, c'est trop long.
Ben oui, donc c'est ça, va descendre. Alors donc, mais toi, quand t'as une idée, par exemple, elle te descend vite, même si t'es...
Moi, je note tout, je suis TDAH, j'échappe tout, fait que j'oublie tout, fait que je note tout de ma vie.
Ça a bien été quand même.
Comme ça.
Ça a bien été quand même.
Ben, ça paraît moins certains jours. Mais je te dis que mon équipe me font des gestes de temps en temps. Mais moi, je suis habitué de tout noter, puis je suis très organisé dans la vie.
Je pense que
c'est juste que je suis distrait.
Ça exige ça, hein, si on veut vraiment savoir où on s'en va, du point A au point B. Alors, c'est ça. Nous autres, à midi, on a un menu fort chargé.
Oui, oui, je vois ça. Ben, je vais t'écouter dans mon auto.
Très gentil.
À tantôt, mon Jean-Luc. Prends soin de toi. Je vais vous garder, tout le monde, évidemment, puis on va continuer à prendre des appels. Mais là, tout de suite, il va y avoir le point de presse du premier ministre François Legault avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et Mme Chantal Rouleau et le directeur, évidemment, national de la santé publique, M. Horacio Arruda, tout de suite après la pause.